Sciences Po Aix et les étudiants des masters métiers de l'information, politique culturelle et Coris vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette quatrième saison, l'équipe a décidé de se plonger dans l'affaire Naël. Nous avons interrogé la manière dont le numérique a façonné les conséquences politiques et publiques du scandale.
Il est rentré. Oh putain. Oh putain.
Vous avez des idées pour le sujet de reportage à rendre pour la rentrée ?
Oui, j'ai pensé à l'affaire Naël. Vous savez, le jeune qui s'est fait tuer à Nanterre en juin ?
Oui, il y a une vidéo qui tourne sur X, mais aucun journaliste n'était sur place. On n'a aucune image vérifiée. C'est vrai que c'est que des vidéos amateurs qui tournent sur Snapchat et TikTok.
Justement, c'est parfait. Si on veut devenir de bons journalistes, il faut qu'on apprenne à relier l'information correctement, quelles que soient les sources que l'on utilise.
T'as raison. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, on se doit de travailler avec ces nouveaux modes d'information et de laisser notre métier évoluer. Ah, d'ailleurs, ce week-end, Anaïs et Mia vont au Festival International Journalisme à Rennes. Elles pourront sûrement nous en dire plus après avoir discuté avec des professionnels.
Ce mardi 27 juin. Un mineur de 17 ans tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer ce matin à Nanterre. Le mineur était au volant de la voiture lorsque des agents l'ont contrôlé. Le policier qui aurait ouvert le feu a été placé en garde à vue.
Bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 4 de Révolution numérique, le podcast de Sciences Po Aix. Cet épisode vous est présenté par Johanna,
Anna,
Célia,
Anaïs,
Mia
et Jean-Baptiste.
La vidéo amateur et son rôle central dans l'affaire Naël nous amènent à travailler sur ces vidéos filmées et diffusées par des acteurs extérieurs au monde journalistique. Dans ce cas-là, comment les journalistes s'adaptent-ils à ce nouveau mode d'information ? Comment les médias utilisent-ils ces vidéos pour en faire une information vérifiée ? Dans le cas de l'affaire Naël, la plupart des médias ont fait usage de ces vidéos amateurs pour relayer les différents moments de l'affaire, le meurtre, mais aussi les émeutes urbaines qui ont suivi.
C'est quand même fou comme le numérique a impacté la formation des journalistes, hein.
C'est vrai qu'avec l'essor et l'évolution du numérique et surtout des réseaux sociaux, la formation a évolué pour prendre en compte ces enjeux. Mais je pense que ça apporte de la matière en plus au métier de journaliste. Il faut dire qu'on s'informe énormément sur les réseaux sociaux de nos jours.
Oui, c'est vrai, tu as raison, mais je trouve que cela complexifie nos formations. Aujourd'hui, avec ces mutations, les écoles doivent nous former à créer et maintenir des liens avec tout un panel de métiers, et avant, c'était pas le cas. En plus, l'avec d'informations en ligne devient la clé même du métier de journaliste, au point de carrément transformer le métier.
Certes, mais vois le bon côté des choses. Cela nous permet d'approfondir nos connaissances du numérique. C'est comme ça qu'on sera formé aux aléas du métier de journaliste. J'ai lu récemment certains travaux de Camille Laville. Pour elle, la formation des journalistes doit s'actualiser en fonction des mutations auxquelles le métier fait face. Et j'avais aussi entendu un discours de Monsieur Joux, tu sais, le directeur de l'école de journalisme de l'UJICAM. Tiens, écoute, je l'ai sur mon téléphone.
Après, il y a des formations qui mettent le paquet sur, on va dire, des nouvelles technologies et des nouveaux formats. Parce que ça leur permet un positionnement original. Je sais qu'à Perpignan, ils ont lancé une formation journalisme avec des drones, par exemple. Bon, voilà, ça fait partie des nouvelles techniques pour faire de l'image. Metz, plutôt pas mal, mais qui est très spécialisée journaliste pour le web, etc. Et qui s'est spécialisée là-dedans historiquement, c'est-à-dire qui vraiment met en termes de volume horaire et de positionnement, etc., met tout là-dessus. Donc voilà, il y a des spécificités.
Oui, j'ai vu les travaux dont tu parles, mais justement, j'ai également lu un autre article évoquant la mutation de la formation des journalistes à l'ère du numérique. C'était un article d'Arnaud Mercier et Nathalie Pignard-Chenel. Il parlait de la nécessité d'adapter la formation des journalistes aux nouveaux enjeux numériques, mais les auteurs pointaient aussi le risque de ne se focaliser que sur ces mutations et laisser de côté les bases du métier. Je pense que c'est qu'un aspect minime de notre formation.
Aspect minime, ça je ne sais pas, mais oui, c'est sûr que notre formation ne doit pas se baser uniquement sur les aspects numériques de notre métier. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse parler de risque pour la qualité de notre formation à ce sujet. C'est pas la première fois que la formation des journalistes a dû s'adapter. Aujourd'hui, c'est l'essor du rôle des réseaux sociaux numériques avec l'explosion de la circulation de vidéos amateurs, comme avec l'affaire Naël, mais avant, c'était l'apparition de la télévision. En fait, à toute période, on trouve des transformations du métier de journaliste et la formation a toujours su s'adapter tout en gardant une cohérence dans le temps. Oh, regarde, Monsieur Joux, il est là justement. On peut aller lui poser directement la question. Bonjour monsieur, on est étudiante en journalisme et on avait une question. Pensez-vous qu'il est devenu primordial de former les futurs journalistes à la pratique du fact-checking avec l'émergence des vidéos amateurs, ou est-ce plus une compétence qu'ils développent une fois seulement dans le métier, sur le tas et avec l'expérience ?
Et ce qu'il y a dans le fact-checking moderne et qui est utilisé pour vérifier les sources, c'est plutôt, alors moi je ne suis pas un spécialiste de ça, mais voilà, les technologies de vérification d'origine des images, de reconnaissance, de vérifier que ce n'est pas des images qui ont été reprises d'ailleurs, ou même aujourd'hui, on commence à avoir des logiciels qui arrivent à repérer si ça a été retouché par l'intelligence artificielle, etc. Mais on va dire, il y a des nouvelles techniques qu'on peut utiliser parce que la manière de produire les images évolue, mais par contre, le fait de vérifier, c'est systématique et depuis toujours.
D'accord, et du coup, avec ces vidéos, qui peuvent être de nature violente, comme le montre l'affaire Naël, la formation prend-elle en compte la question de leur utilisation ?
Évidemment, bien sûr que ça, la question est abordée. Alors, c'est rarement une décision d'un journaliste seul, hein, quand on décide de ne pas diffuser des images violentes ou de les diffuser. Souvent, c'est une décision collective, parce que c'est compliqué. Donc, la violence, quand il y a de la violence, hein, la montrer, c'est informer, évidemment. Mais c'est aussi porter atteinte aux personnes qui sont filmées, parce qu'on va montrer des images dégradantes. Et puis, c'est aussi réfléchir à ce qu'il est possible, selon à qui on montre et dans quelles conditions, ce qu'il est possible de montrer ou pas. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui étaient d'astreinte la nuit où il y a eu le Bataclan. Aucun n'a envisagé... Ils avaient des images, hein, qui parvenaient de l'intérieur du Bataclan. Aucun n'a envisagé de les diffuser en direct, évidemment.
D'accord, merci, merci beaucoup. Ok, donc la formation des journalistes se transforme, mais en vrai, ils font comment pour utiliser ces vidéos ? Comment les choisir ? Qui les vérifie ? Comment on sait si elles ne sont pas trafiquées ?
Comme on l'a vu tout à l'heure, la formation des journalistes a changé. C'est la preuve que ces transformations et ces nouvelles pratiques informationnelles sont prises en compte par les journalistes.
Quand tu dis nouvelles pratiques informationnelles, tu parles uniquement des réseaux sociaux ? Qu'en est-il alors du rôle des médias traditionnels ?
Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance des réseaux sociaux et d'Internet, le rôle du journaliste est avant tout de s'adapter à ces nouveaux modes d'information. Dans certains cas, sans l'usage de ces vidéos dites « amateurs », l'information n'aurait pas pu être traitée dans sa totalité. En effet, si on prend l'exemple de l'affaire Naël, la vidéo amateur où l'on voit le policier braquer son arme sur Naël a été déterminante pour la suite de l'affaire. C'est d'ailleurs Olivia, la jeune fille qui a eu le réflexe de sortir son téléphone et poster la vidéo sur X, qui s'est questionnée sur l'importance de son acte.
Mais quand on voit ça et qu'on connaît la première version qui a été donnée et qui n'était pas le reflet de ce qu'on voyait dans la vidéo, je pense que j'ai bien fait de la poster.
Depuis sa publication, la vidéo a été visionnée près de 3 millions de fois. Olivia n'imaginait pas que le post allait marquer le point de départ de 5 nuits d'émeute.
Je peux entendre la colère des Français. S'il n'y avait pas eu la vidéo, quelle aurait été la suite ?
La vidéo a ainsi été le point de départ d'une série d'articles et reportages sur les plus grands JT et médias traditionnels. La mort de Naël est un événement inattendu, couvert par aucun journaliste sur place. En ce sens, le seul moyen d'illustrer le relais de cette information reste la vidéo amateur postée sur les réseaux sociaux.
Mais du coup, les médias traditionnels, ils servent à quoi dans ce type de situation ?
Les journalistes des médias traditionnels doivent analyser la vidéo et réussir à correctement articuler ses propos autour de ce qu'elle véhicule. Des médias comme Le Monde, BFM TV ou Brut ont d'ailleurs repris les nombreuses vidéos amateurs de l'affaire, mais aussi des émeutes, en précisant qu'il s'agissait d'images vérifiées ou encore en qualifiant la vidéo de « vidéo circulant sur les réseaux sociaux authentifiée par plusieurs médias ».
D'ailleurs, il y a une conférence cet après-midi avec les journalistes de l'émission Info Intox. J'ai réussi à caser un rendez-vous avec Corentin Beignet, journaliste au pôle Les Observateurs de France 24. Il travaille uniquement sur les vidéos et fake news diffusées sur les réseaux sociaux. Il pourra sûrement répondre à nos questions sur l'utilisation des vidéos amateurs. Bonjour Monsieur Beignet, en tant que journaliste, comment faites-vous usage de ces vidéos ?
Tout le travail des observateurs est un travail de fact-checking puisque c'est un programme qui fonctionne sur des images amateurs. Ça veut dire que c'est des images qui demandent d'être vérifiées avant d'être reliées, avant d'être mises en forme dans un article. Donc que l'information soit vraie ou fausse, il y a un travail de vérification de l'image. Et pour schématiser, si on voit une vidéo circuler qui s'avère être vraie, ça peut devenir un sujet observateur. Si on voit une vidéo circuler qui s'avère être fausse ou relayée dans un contexte tronqué, ça part du côté info-intox. Pour ce qui est du travail des observateurs, on utilise simplement les réseaux sociaux sociaux, donc c'est beaucoup Twitter, Facebook, ça c'est les deux sources principales, il y a Telegram également. On a des listes sur ces réseaux, en tout cas sur Twitter, qui permettent de tenir un peu au courant de ce qui se passe par zone géographique ou par thématique. En scrollant, ça peut prendre des heures, parfois ça peut prendre deux minutes parce qu'on a de la chance. On peut trouver une photo, une vidéo intéressante d'un fait qui s'est passé à un endroit. Ça nous semble quelque chose qui n'a pas été trop relayé encore par les médias ou qui a pu passer sous le radar de l'actualité, qui nous semble intéressant à creuser. L'idée, en tout cas du côté observateur, c'est vraiment de partir d'un phénomène qui peut sembler micro, mais qui veut dire quelque chose à un niveau macro. C'est une violation des droits de l'homme quelque part dans une ville à un moment précis. Ça peut vouloir dire quelque chose de plus, par exemple, sur le comportement général de la police dans ce pays, ou quelque chose du mouvement de manifestation qui peut y avoir en cours dans ce pays dans le cadre duquel il y a eu cette violation des droits de l'homme. Côté info intox, on va regarder donc les images qui sont reliées avec des mauvaises légendes ou qui sont reliées de manière décontextualisée. Et là, on va surtout s'attacher à la viralité de l'image diffusée. On regarde un peu l'importance de la source pour juger s'il est utile de la traiter ou non.
Ah d'accord, je vois, merci. Et dans le cas de l'affaire Naël, comment les vidéos amateurs ont été utilisées au sein de la rédaction de France 24 ?
Évidemment, la vidéo du policier sur Naël qui a circulé partout et qui a été utilisée sur France 24, évidemment pas la partie où le policier tire. Sur France 24, on a une charte très stricte à respecter sur ce qu'on peut montrer ou ne pas montrer, et le principe est de ne pas montrer des personnes en situation de vulnérabilité ou en situation humiliante. Donc évidemment, il est hors de question de montrer le moment de la vidéo où le policier tire sur Naël, mais l'extrait de la vidéo de l'arrestation avant le tir mort a vraiment été utilisé. Après, des vidéos des émeutes, à partir du moment où elles ont été vérifiées, qu'on a bien pu les dater et les localiser, typiquement le travail qu'ont fait nos observateurs, sont des vidéos qui ont été utilisées également pour l'antenne. Par contre, ce qu'on a pu faire, c'est traiter deux ou trois intox qui étaient en lien avec cette affaire, qui prétendait que c'était la guerre civile en France. Et typiquement, une vidéo qu'on a pu traiter, c'est une vidéo qui prétendait montrer l'incendie de la bibliothèque Alcazar à Marseille. Deuxième vidéo qui prétendait montrer cet incendie de la même bibliothèque, mais qui est en réalité l'incendie d'un centre commercial en Seine-et-Marne, lors des émeutes. Dans ce cas précis, ces vidéos-là ont circulé parce que si la bibliothèque de la Casar a bien été attaquée le 29 juin dans le cadre des émeutes, c'est uniquement la devanture qui a été endommagée et aucun livre ou document important n'a été touché, contrairement à ce que racontaient les publications qui circulaient sur les réseaux sociaux. C'était notamment des publications qui circulaient en anglais, donc c'était le regard de l'étranger sur ce qui se passait en France. Donc deux vidéos, l'une qui s'est vraiment passée ou qui s'est, on va dire, un peu passée, et l'amplifier à fond avec une image qui n'a rien à voir pour essayer de véhiculer un narratif qui est typiquement là, celui de dire que c'est la guerre civile. C'est clairement le message qui était derrière ces intox-là.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Au revoir. T'as vu ? Il a repris principalement tous les concepts que je t'avais expliqués. Oui, maintenant je comprends mieux l'utilité de ces vidéos pour le travail des journalistes. Mais j'ai encore un peu de mal à bien comprendre le concept de fact-checking.
Le fact-checking, c'est une fonction spécifique de mise en forme et de vérification de l'information, mais aussi d'analyse de documents que les journalistes n'ont pas eux-mêmes produits. Comme nous l'a expliqué Corentin Beignet, dans les rédactions, tout est fait pour essayer de donner une information la plus fine et vérifiée possible. On n'a pas tant une disparition qu'une transformation du métier de journaliste.
Donc n'importe qui peut filmer quelque chose et voir sa vidéo apparaître au JT ?
Non, pas vraiment. Les journalistes vont faire de la veille informationnelle sur les réseaux sociaux à la recherche de vidéos. Mais il y a aussi des chaînes de TV comme BFM qui ont mis en place la plateforme Témoin BFM TV où chacun peut y publier sa vidéo. Si on est témoin d'un événement, on peut mettre la vidéo sur la plateforme et après vérification, apparaître à l'antenne sous le bandeau « Images amateurs » ou « Vidéo de nos témoins ».
Mais du coup, est-ce que ça ne décrédibilise pas le travail de journaliste de diffuser des vidéos qui peuvent être de mauvaise qualité ?
Justement, dans les rédactions, il y a des journalistes spécialistes de l'image, du son, des photographes professionnels. En général, si des vidéos amateurs sont utilisées, on essaye d'avoir une excellente qualité d'image et de son. En fait, les journalistes ne se mettent pas en quête de la vidéo parfaite, mais ils essayent de trouver une vidéo de bonne qualité, pas trop choquante, dans le but de donner une info claire et neutre aux téléspectateurs. C'est en ça que le métier de journaliste apparaît toujours comme essentiel, malgré ces nouveaux enjeux.
Attends, tu reconnais ?
Non, c'est quoi ?
C'est le son de Laylo, Lost Forest. Tu sais, celui qui parle des violences policières dans sa musique.
Chut, j'entends pas. J'ai rien à perdre, si c'est claqué, on peut se barrer. À ce moment-là, c'était carré. Je mets tout tes poids qui se préparaient jusqu'à ce qu'on entende.
Police, les fils, c'est quand tu crois que t'es libre qui te ramène à la vérité qui est triste. On connaît déjà leur vice, on connaît déjà le disque. Laissez-moi gérer la conversation police, avant que ça s'envenime. C'est pas le bariole, coupe mon point, tes mains, toi, tes mains. Monsieur l'agent, ces derniers temps j'ai fait pas mal d'argent. Vous faites erreur sur la personne, je suis un peu nocif mais attachant. Sois indulgent, plus, c'est ce que
j'ai dit avant qu'ils me répondent. Ferme ta gueule, mets-toi à plat ventre.
Oh, éteins les radios, Philippe.
Ouais, je mets ça tout de suite.
Faites-moi les malins, là.
Avec ouais, fais-moi les malins, c'est bâtard.
Apporte-moi les cagoules, on va se les faire.
Comment ça, les cagoules?
Qu'est-ce que vous allez faire, là?
Vous allez vite le comprendre.
Ah, ok, c'est super intéressant, ces nouvelles façons de travailler, quoi. Mais du coup, je me demande, ça se passe comment, concrètement? Est-ce que tu sais s'il y a des points négatifs à l'utilisation des vidéos amateurs par les journalistes?
Il me semble qu'il y a tout de même un droit à l'utilisation de ces images, c'est réglementé.
Ah, tu parles droit d'auteur?
Exactement. Même si les vidéos sont publiques sur les réseaux sociaux, les journalistes doivent négocier l'utilisation et l'éventuelle rémunération des auteurs. Ils restent titulaires des droits d'auteur. Ainsi, il est essentiel de passer par un accord écrit, comme pour les droits d'auteur classiques.
Ah ok. Et j'ai aussi entendu parler du droit à l'image. Tu sais, c'est sur les vidéos quand on voit les personnes avec le visage flouté. En fait, c'est pour protéger leur vie privée et leur anonymat.
Mais malgré tout, est-ce que tu penses que l'utilisation d'images choquantes est nécessaire?
Attends, c'est pas Patrick Brunotto là-bas? Tu sais, c'est un chercheur du CNRS spécialisé dans les violences policières et le maintien de l'ordre. Il a travaillé sur les vidéos des manifestations. Viens, on va lui parler.
Bonjour monsieur, on aimerait vous poser une question à propos de l'usage des vidéos amateurs. Le premier devoir des médias et des journalistes est d'informer, de montrer la réalité, mais quand celle-ci est particulièrement violente, jusqu'où doit aller ce devoir d'information?
C'est à chaque habitus de journaliste, dans un contexte donné, il n'y a pas de loi générale, à pouvoir se dire, est-ce que là, effectivement, je risque de traumatiser? Est-ce que là, voilà. Ceci étant dit, si l'image permet d'arrêter un prédateur, si l'image permet effectivement d'aller vers la responsabilisation justement d'un monstre, eh bien le journaliste, je pense, déontologiquement peut justement capter l'image parce que ça permettra de repérer soit le policier, soit un prédateur de la société civile. Donc à ce titre-là, effectivement, en termes purement pénal, je pense qu'il y a un devoir civique au-delà de la factualisation médiatique, il y a un devoir civique de citoyenneté pour ce journaliste.
Ah oui, c'est super intéressant, je ne voyais pas les choses comme ça. Et sinon, est-ce que vous avez regardé le JT de France 2 l'autre soir? Parce qu'ils se sont excusés publiquement après avoir fait une erreur de sous-titrage sur la vidéo de la mort de Naël. Ces sous-titres favorisaient la version de l'IGPN et donnaient une toute autre version de l'histoire.
Hier, nous évoquions l'enquête sur la mort de Naël. Nous avons pour cela utilisé le travail de l'ONG Index, qui a tenté de rendre le son de la vidéo plus audible, mais sans parvenir à une conclusion. Les sous-titres que nous avons utilisés donnaient eux une version de l'IGPN. Nous nous excusons pour cette erreur auprès de l'ONG et de tous nos téléspectateurs.
Mais quoi? Je pensais comment les images utilisées dans les journaux de 20h étaient fiables.
Bah, tu sais, c'est pas toujours aussi simple que ça. Déjà, il faut toujours faire attention au point de vue des gens qui ont fourni les vidéos. Et même, les journalistes peuvent donner une mauvaise interprétation. Souvent, il nous manque la contextualisation, vu que les gens commencent à filmer une fois l'action passée.
Je comprends, c'est dur de toujours avoir un point de vue net sur ces questions-là. Dans ce cas-là, peut-être il faudrait que les journalistes utilisent plusieurs vidéos amateurs pour donner le maximum de points de vue et éviter de diffuser un avis trop partial, hein ?
Oui, sûrement. Mais bon, c'est vachement négatif tout ça, non ? Les vidéos amateurs contribuent quand même pas mal au travail journalistique, finalement.
Quand il s'agit en plus d'aller vers ce qui fait le plus mal à l'État, à savoir la raison d'État, la police, les violences policières, les bavures, etc., on a encore plus besoin de vidéos, et ce sont que les vidéos militantes, ce sont que les vidéos amateurs, ou même les vidéos volées depuis le haut des immeubles, qui permettent d'accéder à des informations que, bien sûr, non seulement la police ne diffuserait pas, mais qu'en plus, on le sait, même avec ces images, les policiers mentent et déforment le réel pour dire que, bien sûr, ils n'étaient jamais là et qu'ils n'ont rien fait et qu'ils sont des représentants purs de la République.
D'accord, merci beaucoup.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Coucou les gars, alors c'était comment le festival? Vous avez eu des infos pour l'enquête?
Oui, carrément, on vous fera un débrief. Déjà, on a entendu parler de l'émission Info ou Intox sur France 24. Elle se concentre sur la vérification d'images qui circulent sur Internet. Apparemment, c'est pas mal car ça permet de comprendre les phénomènes de fake news et de deepfake. En plus, ce genre d'émission a une grande utilité publique, dans le sens où il permet de nous sensibiliser, mais aussi de prendre conscience des enjeux de l'utilisation de vidéos amateurs en tant que source journalistique.
Et en plus, pour compléter, il y a aussi ce livre qui est intéressant, « Des amateurs dans les médias » de Benjamin Ferron, Nicolas Hervé et Olivier Trédan. C'est un livre qui explore les relations entre les univers professionnels et amateurs du journalisme. Au-delà de la simple relation du journaliste à la vidéo amateur, ce livre pose la question de l'émergence du phénomène de journaliste amateur et de leur réputation auprès des journalistes professionnels.
Ok, super, merci pour les conseils.
Bon allez, on se voit demain pour tout mettre en commun. À plus.
Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux autres épisodes de la saison. Notamment l'épisode autour des médias alternatifs que vous pouvez retrouver en exclusivité la semaine prochaine. Cet épisode traite de l'émergence de nouveaux médias sur Twitter, avec notamment le cas de Serfia. À bientôt sur Révolution Numérique.